La première partie de la Grande Table, on est lundi et je suis heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous. Comme un lundi, grand reportage, retour aux sources de l'État islamique avec le journaliste américain Joby Warrick. Attention, c'est du lourd, comme on dit, des années d'enquête, plus de 200 entretiens. Prix Pulitzer, cette année, le journaliste américain sera avec nous à partir de 12h55 pour Sous le drapeau noir, le meilleur livre de l'année selon le New York Times et le Washington Post pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mais d'abord, avant de retrouver Ken Loach, le rouge, demain, Bertrand Belin, le chanteur au mot juste et au beau geste, mercredi, le réalisateur chinois Wang Bing, jeudi, et Pierre Berger qui nous présente Bernard Buffet vendredi en balade au musée d'art moderne. Ce midi, c'est Jacques Tardy avec sa complice Dominique Grange. Il lance le dernier assaut chez Casterman, une BD CD, engagée, révoltée, retranchée, une fois encore dans la guerre des tranchées. Dom et Tardy sont sur France Culture et sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, c'est lui. L'adaptation de Nestor Burma de Léo Mallet et celle de Manchette avec la position du tireur couché, c'est encore lui. Il a un style reconnaissable entre mille, des nez patates, des yeux ronds aux traits d'union, des visages remplis d'expressions sans jamais forcer le trait. Ses bulles sont remplies de mots parce que Tardy a encore et toujours des choses à dire. En a-t-il gros sur la patate d'ailleurs? Nous lui poserons la question avec la chanteuse Dominique Grange qui est de toutes les luttes sociales de droit d'asile à 1968-2008. N'effacez pas nos traces. Avec le groupe Accords et Âmes, compagne de Tardy à la ville comme à la scène, ils ont reformé leur tandem artistique pour ce nouvel album CD, Le Dernier Assaut, qui vient de paraître chez Casterman. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Heureuse de vous avoir avec nous. Après, c'était la guerre des tranchées, putain de guerre, des lendemains qui saignent. Vous poursuivez donc le sillon que vous avez creusé l'un et l'autre avec Le Dernier Assaut, dénoncer les horreurs de la Première Guerre mondiale, Jacques Tardy. Pourquoi cette nouvelle mise au point?
Parce que je pense que c'est nécessaire, il faut absolument pas s'arrêter, bien que je considère ce bouquin comme le dernier sur le thème, d'où le titre, Le Dernier Assaut. Mais ceci dit, ça me paraît nécessaire de revenir sur ce sujet, et de ne pas s'arrêter de dénoncer la guerre, dénoncer les abus, dénoncer les motivations de fric, des industriels, etc. Et puis aussi, parce que selon moi, cette guerre, qui apparaît bien souvent comme une vieillerie, comme quelque chose d'ancien, on aurait tendance à se moquer des anciens combattants, bien qu'il n'y en ait plus aujourd'hui, plus un seul, mais ça a été comme ça pendant très très longtemps. Eh bien, selon moi, cette guerre explique exactement, totalement, complètement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On l'a passé sous silence, enfin pas passé sous silence, mais on a balayé cette guerre en disant c'est un truc de vieux con d'une certaine façon, alors qu'immédiatement après, donc le traité de Versailles va nous amener Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas étrangère à cette guerre quand on pense à la façon dont on a découpé artificiellement des frontières à la règle sur des cartes d'état-major au Moyen-Orient. Ce que nous vivons aujourd'hui serait peut-être une conséquence de ça, de tout ça, ces abus.
Cette guerre des tranchées racontée avec le recul de l'histoire, hein, c'est aussi la particularité de cette bande dessinée, Le Dernier Assaut. Ils laissaient derrière eux des vieillards, les enfants et les malades perfectionnant une méthode de déportation qu'ils pousseraient à son paroxysme 20 ans plus tard, peut-on lire. Le narrateur remet toujours en perspective dans Le Dernier Assaut. Il recontextualise, d'autant que la suite de l'histoire, vous l'avez vécue intimement, Jacques Tardy, à travers l'histoire de votre père que vous avez raconté, dont moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B ou 2B. L'historien britannique Ian Kershaw, qu'on recevait récemment dans l'émission, biographe qui a fait une biographie somme d'Hitler et qui était spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a montré, comme vous l'évoquez, dans son dernier essai, L'Europe en enfer, que ces deux guerres, selon lui, n'en font qu'une. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est pas la vie des... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas la vie des historiens, généralement. Ils sont contre cette idée, mais je vois
cette
pas...
Cette continuité de l'histoire.
Oui, je vois pas, bon, le traité de Versailles, sans le traité de Versailles, il n'y a pas Hitler. Il n'y a pas la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Hitler sans cesse se réfère aux diktats, aux humiliations du traité de Versailles. Bon, je ne vois pas comment on peut dissocier ces deux guerres.
Alors, chaque homme était convaincu que le moment était venu de livrer son dernier assaut. Ça, c'est pour les protagonistes de cette bande dessinée, le dernier assaut, mais aussi également pour vous, Jacques Tardy, vous l'évoquiez, la fin d'un cycle, peut-être dans votre œuvre sur la période 14-18. Dominique Grange, vous expliquez avoir en commun avec Jacques Tardy le choc traumatique de cette monstrueuse araignée, de cette monstrueuse saignée, qui était peut-être aussi d'ailleurs une araignée. Qui vous l'a transmis? Par où est passé ce choc pour vous? Par l'histoire nationale ou par vos histoires familiales?
Oui, c'est passé par notre histoire familiale à tous les deux, puisque nos quatre grands-pères ont été combattants de façon différente d'ailleurs. Les grands-pères de Tardy étaient au front directement, les miens étaient jeunes médecins. Donc ils étaient plutôt les mains dans la viande,
dans les viscères,
obligés aussi de procéder à des amputations dans des conditions effroyables avec des gens qui étaient même pas anesthésiés. Enfin, un de mes deux grands-pères m'a raconté ça beaucoup quand j'étais petite. Et bon, ça m'a énormément marqué. Je pense que c'est le cas de millions de familles en France. Toutes nos familles ont été traversées par ce drame. Et puis plus tard, par la Seconde Guerre mondiale, où là encore, Tardy et moi, on est rapprochés par l'histoire de la captivité respective de nos deux pères. Donc on vit pas mal avec la guerre, et quand Tardy travaille sur un thème comme celui-là, il lit beaucoup, il cherche des photos, il cherche des documents, il se documente énormément, il veut être précis, donc il m'en parle. Et petit à petit, on est dans le bain, on est dans cette ambiance. Moi aussi, je cherche des choses. Parfois, je lui fais des recherches sur l'ordinateur parce que il a pas d'ordinateur et qu'il en veut pas. Donc, il me dit, tiens, trouve-moi, je sais pas, un petit canon, le Minenwerfer, c'est ça. Le Minenwerfer qu'on a cherché beaucoup. Bon, des choses comme ça parce qu'il a cette exigence de la précision documentaire. Et donc, je suis malgré moi emportée dans cette espèce d'exigence, dans ce flot aussi d'informations, ce qui m'amène presque tout naturellement à avoir des inspirations pour écrire des chansons, voilà, pour relayer ça d'une autre façon, faire passer ces messages contre la guerre, contre l'ineptie de ces combats, le fait qu'on puisse envoyer tant de jeunes gens à la mort sans leur demander leur avis et uniquement pour finalement au profit des marchands de canons. Tout ça, on peut le dire aussi en chanson, de façon beaucoup plus ramassée, concise, en 3-4 minutes, parce que sinon ça passe pas à la radio.
Et vous allez voir, on va en passer une et en intégralité.
Hein. Génial.
Vous allez être,
je n'en doutais pas,
pleine de remords de ce que vous venez d'insinuer.
Ça ne vous concernait pas. Mais vraiment, vraiment, tout naturellement, cette inspiration me vient, et donc on entremêle un peu nos récits par moments, et c'est le cas dans cet album.
Mais vos quatre grands-pères qui ont connu cette guerre, vous le dites, sont tous les quatre rentrés sains et saufs de cette grande boucherie? C'est-à-dire que c'est eux qui ont transmis cette mémoire?
Non,
c'est
passé par les grands-mères. Moi, j'ai un grand-père qui est resté sur le terrain, qui est mort, il avait, je crois, 22 ans. J'ai connu l'autre grand-père, mon grand-père paternel, il a été blessé, gazé, comme beaucoup de soldats. Il a été blessé plusieurs fois. Et ma grand-mère me racontait sa guerre. J'avais, 5-6 ans. J'étais terrorisé par ce qu'elle me racontait. C'est comme ça que j'ai pris contact avec ce conflit. Je n'avais jamais vu d'image. Je n'avais évidemment rien lu. Mais j'avais ce personnage vivant, ce grand-père qui était très calme, qui allait me chercher à la sortie de l'école. Et je comprenais pas qu'on lui ait donné un fusil, un uniforme, et qu'on l'ait transformé finalement en tueur d'une certaine façon. Je comprenais pas, il y avait un décalage entre ce personnage et les horreurs dont me parlait ma grand-mère. C'est longtemps après, bien sûr, que j'ai vu les premières photographies dans des revues, que j'ai lu les premiers bouquins, les classiques, à l'Ouest, rien de nouveau, les Croix de Bois, etc., ce qu'on trouvait en collection de poche à l'époque, mais longtemps après. Le point de départ, c'était ce grand-père. Il y avait quelque chose qui collait pas, parce qu'il était très doux, très calme, très gentil, Et on l'avait, je comprenais pas comment on avait pu mettre ce type dans une telle situation de violence épouvantable.
Et aujourd'hui, vous avez compris ?
Oui, j'ai compris, oui. J'ai compris que bon, il est nécessaire qu'il y ait une espèce de manipulation des gens et surtout l'ignorance, les maintenir dans l'ignorance du but véritable à poursuivre sous prétexte de patriotisme, etc.
Et alors des deux côtés justement, c'est ce qui est intéressant sur le travail de la langue que vous faites dans cette bande dessinée, c'est-à-dire que vous retrouvez le parler d'antan. Est-ce qu'on vous l'a transmis celui-là aussi ou est-ce que ça vient de ce gros travail de documentation ? En tout cas, vos personnages parlent comme en 1914. Et puis, il y a ce choix, Dominique Grange, de chanter en plusieurs langues. Le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. Il n'y a pas la langue de l'ennemi et la langue de la patrie. Il y a comme une sorte de langage universel que vous adoptez de paix et de guerre, hein, finalement. Est-ce que ça, c'était un choix ?
Oui, tout à fait.
Parce que des deux côtés, on jetait des hommes sur ce terrain boueux, meurtrier, ensanglanté, du côté de l'Allemagne comme du côté de la France, hein, notamment.
Tout à fait. La guerre a ce caractère internationaliste, si on peut dire, qui est universel. De tout temps, on a fait des guerres, on s'est foutu de savoir si ça concernait les gens ou pas. De tout temps, on a voulu préserver les frontières, on a voulu délimiter des territoires. Et on voit bien les conséquences aujourd'hui. Bon, ce que Tardy évoquait tout à l'heure à propos du Moyen-Orient. Et je dirais qu'il y a des répercussions partout. Hein. Aujourd'hui, où on est en train de démanteler la jungle de Calais, eh bien, on voit bien les conséquences des guerres. On voit bien comment ça jette les gens sur les routes, ça les jette dans la projette dans la misère, dans l'incertitude du lendemain. Donc tout ça, on peut le chanter, on peut le dire dans toutes les langues, ça touchera toujours quelqu'un quelque part, ça concernera toujours quelqu'un quelque part. Et on a fait cette recherche de chansons écrites à l'époque, il y en a très peu, où il y a des chansons patriotiques ou des chansons à boire, bon, qui nous intéressaient évidemment pas. Donc on a choisi des chansons qui sont vraiment des chansons de résistance, anonyme pour certaines, comme la chanson de Craon, célèbre, ou Gorizia, qui est une chanson italienne également anonyme. Et puis cette chanson de Brecht, qui est quand même très intéressante, parce que Brecht l'écrit, il est au front jeune infirmier en 18, donc à la fin de la guerre, alors que l'armée allemande est exsangue et qu'on cherche à enrôler n'importe qui, y compris des gamins, pour remplacer les soldats qui sont morts. Et bon, il met en scène ce soldat mort en héros, que le Kaiser va sortir, extraire de la terre, extraire de son trou pour le retaper avec, en lui mettant des jolies infirmières sous les bras, en jouant de la grosse caisse, etc. et le rebalancer au front où il doit mourir en héros une deuxième fois. Cette chanson de Brecht, elle était inconnue, enfin en tout cas en France, il y avait très peu de gens qui la connaissaient et il a également écrit la musique et moi je suis tombée saisi par la force de ce texte et par l'intérêt qu'il manifeste pour finalement la situation du pauvre mec, quoi, du pauvre mec qui est tombé et qui n'y peut rien.
Die Legende vom toten Soldaten, hein, la légende des soldats morts, oui. Écrite à l'été 1918.
Hein. Oui.
Il y a un processus créatif commun, cette bande dessinée avec ce CD. Sur le CD, on retrouve vos chansons, Dominique Grange. Il y a aussi des textes lus par vous, Jacques Tardy. C'est une aventure qui va se poursuivre pour vous avec un spectacle concert, Putain de guerre, où vous chantez, Dominique Grange, et où vous lisez, Jacques Tardy, des extraits de Putain de guerre et de cette bande dessinée, du Dernier assaut. On pourra notamment vous voir, vous entendre à Nancy le 11 novembre et à Genève le 13 janvier, avec d'autres dates, bien sûr, à la clé. On va écouter tout de suite un extrait de Adieu Brouty, dans votre voix, Jacques Tardy.
L'air était empoisonné par l'hypérite. La terre tremblait, les cadavres de la veille montaient se ficher dans les arbres mutilés, et les hurlements de douleur des hommes se perdaient dans le fracas de la bataille. Augustin, blessé, avait dévalé jusqu'au fond boueux d'un entonnoir. Soudain, il vit Brouty, l'anguille, le branco venir à lui, dévalant sur le cul jusqu'au fond du trou d'obus. « Je vais te sortir de là, mon gars, lui dit-il. T'inquiète, c'est la bonne blessure. Fini de monter aux jutes et verni, Augustin. Pour toi, cette putain de guerre est terminée. Tu la reverras à la rue des Panoyaux. » Augustin, eut encore le temps de voir la bonne bouille du petit Branco Broutille s'abattre à ses côtés, un gentil sourire aux lèvres et un peu de sang sur les dents.
C'est pas beau, hein, la guerre, nom de Dieu, comme vous le chantez, Dominique Grange. D'ailleurs, vous, Tardy, vous ne cherchez pas à l'esthétiser. Le trait de votre crayon est épais, les tonalités monochromes, du métal, de la boue, de la grisaille, il y a du gris, du noir, du marron dominant sur vos planches, avec quelques éclats de couleurs, le rouge de la croix rouge, le rouge du sang, le rouge des balles qu'on tire, le jaune du briquet qu'on allume pour se fumer sa petite sèche. Tous ces corps qui gisent, ces corps qui s'entassent dans les tranchées, cette masse d'anonymes morts au combat, et dans cette masse, quelques noms, visages qui surgissent sous votre crayon. Augustin, Grumeau, Brouty. Qui c'est qui va pleurer Brouty? Un petit gars qui avait pas de famille, qui voulait pas porter les armes. Qui c'est qui va verser des larmes? Ça, c'est aussi ce que vous chantez, Dominique Grange. Lutter contre l'oubli, chanter leur histoire. Un siècle plus tard, Jacques Tardy, vous diriez que c'est une bande dessinée pour la France amnésique ou pour les jeunes qui n'ont pas hérité de cette mémoire directement?
Oui, c'est pour les jeunes gens qui sont quand même assez ignorants. J'en suis quelquefois surpris, consterné. Il y a une ignorance totale. Ce conflit-là, ils n'en ont pratiquement jamais entendu parler. Je ne sais pas ce qui se passe avec le programme scolaire, avec les profs d'histoire. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ils en ont pratiquement jamais entendu parler. Et de toute façon, l'idée générale, c'est que c'est un truc de vieux, parce que ils sont incapables d'imaginer que c'était des jeunes gens qui partaient, qui avaient entre 18 et 22 ans, qui avaient leur âge, grosso modo.
France Culture, il est midi 18, les Tardy sont nos invités, Jacques et Dom, comme Dominique Grange. Le dessinateur Jacques Tardy et la chanteuse Dominique Grange lancent le dernier assaut sur France Culture ce midi.
On l'appelait Branco Broutille, ce brancardier du régiment qui se faufilait comme une anguille entre les morts et les mourants. Quand parmi les corps démembrés, les crânes explosés, les viscères, Broutille recherchait les blessés, serrant contre lui sa civière. Il leur criait « On vient petit !» pour adoucir leur agonie, mais les larmes lui montaient aux yeux. C'est pas beau la guerre, nom de Dieu, mais les larmes lui montaient aux yeux. C'est pas beau la guerre. Toujours dispo, toujours souriant, Brody n'avait pas son pareil pour repérer les survivants, même sous des pluies torrentielles. Scrutant le no man's land dans la nuit, il accourait au moindre cri. Et lorsqu'il en découvrait un, tenant ses entrailles dans ses mains, il mettait toute son énergie à leur amener encore en vie, tout sanglant dans son grimpant bleu. C'est pas beau la guerre, nom de Dieu, tout sanglant dans son grimpant bleu. C'est pas beau la guerre. Un jour qu'une offensive a fait des milliers de morts côté français, les brancos se sont abrités dans une cagna à proximité. Quand a cessé la canonnade, Broutille est sorti de son trou, pataugeant dans le sang et la boue, au secours de ses camarades. Mais il s'est relevé trop tôt, un tir de ce dernier assaut l'a couché juste à côté d'eux. C'est pas beau la guerre, nom de Dieu, la coucher juste à côté d'eux. C'est pas beau la guerre. Qui c'est qui va pleurer Broutille? un petit gars qui avait pas de famille, qui voulait pas porter les armes, qui c'est qui va verser des larmes? Pas beau la guerre.
C'est pas beau la guerre.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Avec Jacques Tardy et Dominique Grange, l'idée de rendre justice à tous les oubliés de la grande boucherie, y compris les tirailleurs sénégalais, traités comme de la chair à canon, aux vies de moindre prix. Vous allez crever en héros, vous aurez la médaille et les Sénégalais la fosse commune. Vive la France, dit pour résumer le brancardier Augustin, un capitaine blessé qui affiche son mépris quant au sort de ces milliers, de ces centaines de milliers de soldats qui se sont battus pour la France. Augustin qui aurait pu débarrasser le monde d'Hitler avant l'heure, mais que la conscience empêche de tirer dans le dos du soldat allemand. Le brancardier Augustin venait d'épargner l'estafette Adolf Hitler, caporal au 16e régiment d'infanterie bavarois. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette scène, Jacques Tardy?
Ça aurait quand même été une très bonne chose. Mais c'est surtout le fait que le personnage d'Augustin ne veut pas porter les armes. Et à partir du moment où il a un fusil entre les mains, bon, évidemment, Il hésite, il ne tire pas parce que le personnage est de dos, mais il aurait dû, pour une fois, il aurait vraiment dû l'utiliser, ce fusil. C'est ça, c'est le paradoxe, c'est, je voulais montrer ça, montrer la monstruosité. Est-ce qu'il va tuer ce type dans le dos? Non, il se refuse à ça, et pourtant ça aurait été une bonne chose, quand même.
Une uchronie intéressante. Augustin, c'est un peu le mélange de vos grands-pères, hein, de ce qu'on en entend. C'est cet homme qui veut pas tirer, qui veut pas aller se battre, mais qui doit quand même y aller sans vraiment comprendre le sens de ses actes. Et puis, c'est le brancardier, inspiré, on imagine, Dominique Grange, de vos deux grands-pères médecins sur le front. Augustin, hanté par ce soldat français qu'il a étouffé alors qu'il gémissait sur un brancard pour ne pas se faire repérer par les Allemands, pour ne plus entendre ses cris. Si ça se savait, ça lui vaudrait évidemment le peloton d'exécution. Si ça ne se sait pas, c'est sa conscience qui va le travailler éternellement. De l'inhumanité de la guerre, son absurdité, des hommes qui survivent mais détruits à jamais, Dominique Grange. On parle assez peu, on parle des morts sur le front, mais on parle pas de tous ceux qui ont survécu, des séquelles psychologiques, des familles entières brisées comme celle de ce soldat anglais mort que vous évoquez aussi dans la bande dessinée, qui cachait une lettre de sa mère dans sa boîte à cigarettes. Hein.
Oui, ça a inspiré un auteur de chansons d'origine écossaise qui vit en Australie, qui s'appelle Eric Bogle, qui a fait cette très belle chanson qui s'appelle No Man's Land, et dans laquelle il interroge ce soldat mort. Alors il lui donne un nom parce que quand il a visité les cimetières britanniques, il a trouvé un certain nombre de tombes qui portaient le nom de Willie McBride. Et donc il va lui poser des questions posthumes, si je peux dire. Est-ce que tu savais que cette guerre ne servirait à rien? Est-ce que tu savais que de toute façon, bon, c'était foutu? Et est-ce que tu savais que la guerre continuerait again and again and again? Il termine comme ça. Effectivement, c'est une interrogation qu'on peut avoir. Il regarde ces cimetières britanniques immenses, parce qu'il y a quand même eu des centaines de milliers de morts dans la bataille de la Somme, de morts britanniques. Et donc, il écrit cette chanson qui pose toutes ces questions. Est-ce qu'une femme t'attendait? Est-ce que tu es dans la mémoire de ta famille? Ou est-ce que tu es devenu un étranger? Voilà, je trouve que c'est une chanson très très belle, très belle chanson contre la guerre et qui pose des vraies questions, mais naturellement personne ne pourra lui répondre.
Et puis dans le dernier assaut, il est beaucoup question de l'industrie de l'armement qui a fait son beurre sur cette guerre pour les seuls intérêts du vampire industriel, écrivez-vous Dominique Grange. Peut-on résumer vraiment la guerre à ce conflit d'intérêts économiques? Ça va au-delà aussi quand même, hein, Jacques Tardy, il y avait des intérêts politiques très forts.
Oui, mais des intérêts politiques pour justifier les intérêts économiques.
Enfin, hein ?
Oui.
Oui.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je vous écoute, je vous pose la question. Quand vos dessins, qui sont tous sauf consensuels, Jacques Tardy, sont choisis pour lancer les commémorations du centenaire de 14-18, vous y voyez une forme de reconnaissance de cet engagement, de ce que vous voulez dire à Angoulême?
Non, non, non. Ça, je suis totalement étranger à ces problèmes de commémoration et autres missions du centenaire et tout ça. D'abord, ça fait une bonne quarantaine d'années que je suis sur le sujet, donc j'ai pas attendu les commémorations.
Non, mais vous dites justement avec le dernier assaut avoir eu besoin d'en reparler encore, de répondre à cette surdité de la société d'après vous sur cette période de l'histoire. Est-ce que le fait qu'il y ait une reconnaissance aussi un peu officielle de vos dessins donne le sentiment que ce que vous en dites est enfin entendu?
Non, ça n'a rien à voir, parce que c'est une reconnaissance officielle, comme vous venez de le préciser, donc hypocrite. Moi, mon problème, c'est de parler de peut-être moins de la Première Guerre mondiale que de la guerre en général. C'est ça qui me préoccupe.
Qu'est-ce qui relie aujourd'hui toutes vos indignations? Depuis 68, Dominique Grange l'a coulé sous les ponts, mais pour vous, révolution, c'est toujours pas un gros mot, ça reste un grand mot?
Ça reste un espoir, en tout cas, bien sûr. Alors, d'aucuns diront que c'est une utopie. Moi, je crois pas. Je crois qu'en tout cas, on doit œuvrer et se nourrir de toutes les tentatives de révolution qui ont existé avant, et petit à petit transformer ça en faire un matériau qui nous sert à continuer à nous battre. Et tous les jours, il y a des gens qui se battent partout pour leur boulot, pour la dignité. Donc on est à leur côté comme on peut, et on peut aussi à travers la guerre, à travers la dénonciation de la guerre, dénoncer tout le reste.
Un grand merci à tous les deux. J'ai donné une mauvaise date pour Nancy. Visiblement, ça a été annulé. Mais sur votre site, on peut retrouver toutes les prochains rendez-vous pour ce spectacle autour du dernier assaut, notamment. Merci mille fois. Bande dessinée et
merci.
Le CD sont parus chez Casterman. Lundi prochain à midi, invité de la grande table, le réalisateur italien Paolo Sorrentino pour sa série événement de Young Pop. Là encore, un pape qui fait la révolution au Vatican. Les deux premiers épisodes sont à voir dès ce soir à 20h55 sur Canal+. Une plongée dans le Vatican d'aujourd'hui. Ses intrigues, ses luttes de pouvoir, alors que le conclave vient d'élire un nouveau pape, jeune, américain, imprévisible, où l'on découvre que le blanc sied décidément très bien à l'acteur britannique Jude Law.
What have we forgotten? From now on, you are no longer Lenny Bilardo.
We have forgotten you!
From now on, you are Pope Pius XIII.
First, I have to drink my cherry Coke Zero.
Seen from up close, you are an extraordinarily handsome man.
I'm also intransigent, irritable. Vindictive.
You don't know shit. You're just a blue-eyed kid.
Retrouvez Paolo Sorrentino dès lundi, aussi dans la grande table, lundi prochain. Mais d'abord, à suivre dès 12h55, un prix Pulitzer 2016, le grand reporter Joby Warrick pour son enquête sur Daesh qui fera date.